Chapitre 60. Saga se débarrasse du landau devant l'entrée d'un Porsche, attrape son pistolet, le cache sous sa veste, traverse rapidement la place Södermalmstorg et franchit les portes en verre du métro. Elle n'ose pas regarder autour d'elle pour vérifier si on la suit. La foule est dense. Elle franchit les barrières derrière un jeune homme, descend rapidement les escaliers menant au quai et se perd dans la multitude de voyageurs. Un train arrive. Quelques déchets tourbillonnent le long des rails. Saga garde la tête baissée et le visage tourné vers le sol. La rame s'arrête dans un crissement. Elle suit le flot des passagers et se poste juste derrière les portes afin de pouvoir quitter le wagon rapidement. Un homme d'âge moyen, barbu et vêtu d'une veste de sport bleue la regarde, puis détourne les yeux. Le métro se met en branle et une femme âgée portant un bouquet de fleurs dans les mains manque de tomber. Saga a l'habitude d'être dévisagée et le fait que l'homme à la barbe ne l'ait regardée qu'une fois l'inquiète. Elle attrape son portable et tente de joindre Randy. L'appel est immédiatement rejeté, mais lorsque le train approche de Rådmansgatan, il la rappelle. « Je peux pas te parler », dit-il d'une voix tendue. D'après l'acoustique, elle comprend qu'il s'est enfermé dans les toilettes. « Putain, mais qu'est-ce qui se passe ?» demande-t-elle. Le train ralentit et s'arrête à la station suivante dans une longue plainte aiguë. « Saga, tu dois te rendre et... Putain, explique-moi ce qui se passe !» l'interrompt-elle. « Ils essaient de savoir si t'es impliqué dans les meurtres. Tu crois que je suis impliqué ? Ce que je crois n'a pas d'importance. Pour moi, peut-être que si. Pourquoi ? Parce que... » Les portes s'ouvrent en sifflant et Saga observe les voyageurs qui montent et ceux qui restent sur le quai. « Je dois raccrocher, » dit-il d'une voix triste. « Randy, j'ai besoin d'un endroit où me cacher, quelque part où... » Il met fin à la conversation. Et Saga quitte le wagon juste avant que les portes ne se referment. L'homme barbu croise son regard à travers la vitre lorsque le train repart. Elle traverse le quai, monte dans la rame suivante en direction du sud et éteint son téléphone pour éviter qu'on ne la piste. Les portes se referment. Une femme d'âge moyen va s'asseoir, une pomme dans la main. Elle est de dos, mais Saga voit qu'elle l'observe à travers l'écran sombre de son téléphone. Le train quitte l'aiguillage, et les secousses des essieux montés s'estompent progressivement. À la station T-Centralen, Saga quitte le wagon, se fond dans la foule, emprunte les escaliers, et se faufile dans une rame à l'arrêt un étage plus haut. Le signal sonore retentit, mais rien ne se passe. Le chuintement des haut-parleurs annonce à nouveau le départ. La femme à la pomme monte à bord et s'assied à l'autre bout du wagon tout en parlant au téléphone. Les portes se ferment enfin. Et le train quitte lentement la station. Les pensées se bousculent dans la tête de Saga. Le groupe d'intervention a fait une descente dans son appartement, ce qui signifie que la police pense qu'elle est directement impliquée dans les meurtres. Quelque chose a dû se passer après sa conversation avec Manvir. Elle se tient face à la fenêtre. Son pouls est normal, mais elle sent son corps couvert de sueur. Les murs en béton gris défilent sous ses yeux. Les quartiers et les stations se succèdent. Les wagons se vident peu à peu de leurs voyageurs. Mais la femme à la pomme reste assise, tenant son trognon dans une serviette. Saga descend à la station Fuangen, emprunte l'escalator, arrive dans la rue et traverse une place où sont installés des stands de fruits et de légumes. Elle jette un œil par-dessus son épaule avant de s'engager dans l'artère principale, puis elle prend à droite. Une camionnette blanche la dépasse et s'arrête une centaine de mètres plus loin. Elle passe devant un camion de déménagement ouvert. Quatre cartons sont empilés sur le trottoir à l'extérieur de la rampe de chargement. Des sangles sont posées sur la plateforme. Elle dépose son téléphone dans l'un des cartons, puis s'engage dans une ruelle étroite. 20 minutes plus tard, elle atteint la villa style année 1960 aux larges baies vitrées, passe devant la porte d'entrée et se dirige directement vers celle de la cuisine. Elle appuie sur la sonnette et se replie dans l'ombre, le visage caché par une clôture en osier dans laquelle les mauvaises herbes s'enchevêtrent. Des bruits de pas résonnent dans l'escalier. Puis la porte s'ouvre. « Saga ?» s'étonne Carl Speller. Il porte un t-shirt marron avec l'inscription « Gentlemen take Polaroids » et un jean noir à revers. La boucle de sa ceinture disparaît sous son ventre proéminent. « Tu es seul ?» demande-t-elle.
« Oui, je
peux entrer ?»«
Bien sûr, il faut juste que je... »
Elle s'avance rapidement, le fait reculer de quelques pas, ferme la porte derrière elle, la verrouille et éteint les lumières du couloir.
« Tu es suivi ?»
répond-elle en descendant l'escalier. Saga l'entend se hâter derrière elle lorsqu'elle arrive dans la cave. Les spots placés sur des rails au plafond sont dirigés vers les objets les plus importants du musée, dont la vitrine contenant les pantoufles ensanglantées de Saga. Sur une petite table est posée une réplique de la vieille prothèse de bras de Yurek. Elle poursuit son chemin dans la cuisine sombre, passe derrière le bar, se remplit un verre d'eau et le boit. Carl la suit, s'assied sur l'une des chaises hautes tout en respirant bruyamment. Ses joues sont écarlates. « Est-ce que je peux rester ici quelques jours ?»«
Je crains que ce soit pas possible, »
répond-il. Puis, il lui adresse un grand sourire qui laisse apparaître ses canines pointues.
« Qu'est-ce que tu crois ? Bien sûr que oui !»«
Merci, » dit-elle en remplissant de nouveau son verre.
« Qu'est-ce qui se passe ? »
demande-t-il en repoussant sa longue mèche en arrière. « Il faut juste qu'on m'oublie un temps. »«
Pourquoi ? » ?»«
On s'en fout. Je ne veux pas que tu sois impliqué. »«
Mais je veux être impliqué !»
répond-il, l'air grave.